Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, Fred Pellerin, conteur de son temps. Désengorger les urgences, un appel à la foi. Et dégringolade du français écrit, à qui la faute? Bonne écoute.
Fred Pellerin, conteur de son temps, un texte de Yannick Marcoux, paru le 25 février 2023 dans Le Devoir. Le conteur de Saint-Élie de Caxton reprend la scène avec La descente aux affaires, spectacle qui fait une belle place à son personnage de Toussaint Brodeur. Fred Pellerin remplit les salles des plus grands théâtres québécois avec ses histoires et sa musique, seul sur ces immenses scènes, sans rien d'autre que sa guitare et un pied de micro. Avant, il avait aussi une chaise, mais depuis la pandémie, elle a pris sa retraite de la tournée. Elle prenait de la place dans le char, nous lance-t-il, le regard rieur. Le Devoir l'a rencontré alors qu'il s'apprêtait à relancer sa tournée québécoise de « La descente aux affaires », spectacle de conte dans lequel il nous invite sous l'épée de Damoclès du temps. Voilà 20 ans qu'il attise les braises de ses contes. Bien au chaud, dans une pizzeria de la petite patrie, il n'en revient pas. Tantôt, on est passé devant la Maison de la culture où mon agente m'a vu en spectacle pour la première fois. En 2001, ou quelque chose comme ça. J'étais à l'université, en même temps, je faisais ça pour le fun. Je ne pensais jamais que ça me mènerait là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, la voix pleine et le regard vif, il est comblé de félicité. D'avoir échappé à ses parcours artistiques éphémères, d'avoir pu vivre des projets enivrants et d'être encore là, nouveau spectacle en bouche, avec un public qui répond présent. À un moment donné, je me dis, ils vont s'écœurer de Saint-Élie de Caxton. Au contraire, on se réjouit de le retrouver, de retour au pays, après une virée en France, avec sa nouvelle fournée de contes, dans laquelle le désormais bien connu Toussaint Brodeur, tenancier du magasin général de Saint-Élie, est le protagoniste de « La descente aux affaires ». Célébrer le Toussaint. Fred Pellerin repousse toute relation ésotérique avec ses personnages, mais il admet que ceci lui donne parfois l'impression de s'imposer à lui. Je me rends compte de ça à chaque fois. C'est comme si le personnage principal d'un nouveau spectacle avait commencé à m'intéresser au spectacle précédent. Signe que les charmes de Toussaint opéraient sur le conteur, celui-ci était au cœur de son premier album jeunesse, La course de petits bateaux, paru en novembre 2021. Fred Pellerin souligne aussi l'apport d'Émile Proux-Cloutier, interprète de Toussaint dans L'arracheuse de temps, long métrage aussi sorti en novembre 2021, qui a propulsé le personnage en lui injectant encore plus de relief et de caractère. Mais si Toussaint est au cœur de La descente aux affaires, c'est aussi le fruit d'une décision concertée. J'ai une obsession grandissante pour le temps, et je trouvais qu'avec Toussaint, il y avait un beau choc à créer entre le temps et son rapport à l'argent. Comme d'habitude, Fred Pellerin s'inspire des figures de Saint-Élie de Caxton pour alimenter ses contes. Mais sous les traits du commerçant se glisse aussi le souvenir de son père. Habile conteur, C-O-M-P-T-E-U-R, et infatigable conteur, C-O-N-T-E-U-R, son père prenait plaisir à manier les chiffres pour les subjuguer à sa création. Mon père n'était pas assoiffé d'argent, mais il ressemble à Toussaint par sa façon de jouer avec le système. Son jeu, c'était de démancher les chiffres. Dans un monde capitaliste où la colonne des chiffres pèse lourd dans la balance de nos préoccupations, Fred Pellerin prend bien soin de mettre de la chair et un cœur à son Toussaint, nous invitant notamment autour du four à pain où Brodeur a rencontré l'amour. Il assure d'ailleurs qu'il est d'abord un joueur de tour qui s'amuse à prendre les chiffres en otage. Toussaint n'est pas méchant. C'est un ratoureux. Il aime l'argent, mais il aime surtout le jeu que lui permet l'argent. On pense parfois qu'il est coincé, mais Toussaint s'en sort tout le temps, sauf devant l'éternité. Un processus créatif fil de feriste. À baigner dans l'univers de ses contes, célébrant ses tournures de langage, ses épatants revirements narratifs ou ses envolées nourries d'exagérations qui font gonfler notre rire jusqu'à nous prendre les côtes, on croirait que Fred Pellerin travaille ses textes au quart de tour. Il n'en est rien. « Moi, je travaille en improvisation, » reconnaît-il, soulevant la feuille posée devant nous, enchaînant « Mon spectacle tient sur ta feuille, là, pas plus volumineux que ton plan d'entrevue. » Le conteur est-il en train d'exagérer? Il assure que non. La première fois, faut que je fasse 1h15. Je veux que les gens s'amusent. Je rentre sur scène avec une pile d'assiettes sur la tête. J'avance tranquillement. Mais après une trentaine de représentations, je ne suis plus en train de chercher les poutres. J'ai trouvé un équilibre et je sais où je peux sauter et où il vaut mieux ne pas aller. À l'exploration des débuts, parsemée de l'ivresse des découvertes, succède alors un autre plaisir, plus libre. Quand je connais les forces du show, je peux m'amuser à ouvrir les petites portes, les fioritures de langue, les délires ou me laisser aller. Je m'amuse avec ça et le show s'étire. Et à un moment donné, il faut que je fasse des coupures. Ça fait ça chaque fois. Je suis parti à 1h15, là, je suis à 1h40. Gardien du feu. Tandis que Fred Pellerin se donne la liberté d'ajouter ou de retrancher du temps à ses spectacles, il prend de plus en plus conscience que cette liberté est circonscrite. Le temps fuit. Et s'il connaît la mort suffisamment pour l'avoir mise en scène, il sait qu'on ne peut la contrôler au point d'en tirer les ficelles. Depuis quelques années, il admet avoir recentré ses énergies et balisé ses priorités. Le plaisir et la folie de la création m'ont pris longtemps. Il y a eu une époque où je faisais 125 shows par année. Mais là, je fais plus ça. J'en fais 75. Ça m'a pris du temps d'arriver à cet équilibre-là. Il cite en exemple le temps des sucres qu'il avait coutume de faire avec son père. Quand il est mort, en 2007, je m'étais dit que je sauterais pas une saison. Mais ma productrice m'a appelé pour un show à Paris. 4 jours. Bon, j'ai dit oui. Mais les sucres, si tu sautes 4 jours dans le mois que ça dure, ça marche pas. L'année d'après, ça a été un documentaire sur Gilles Vigneault, Le goût d'un pays. Puis finalement, ça a pris 11 ans. Mais là, ça fait 5 ans. Et maintenant, le mois des sucres, c'est sacré. Il en parle d'ailleurs avec passion, les mots sucrés et généreux comme un bon sirop, admettant que le rythme des sucres le rappelle à une humilité qui fait du bien. Tu te mets à la merci de la chose, tu te poses avec elle. C'est méditatif. Loin de vivre au ralenti, au contraire animé par une urgence d'habiter l'existence, il fait fi du temps et s'inscrit dans un quotidien de feu furieux où il apprend à vivre dans une forêt qu'il habite depuis quelques années. Pour moi, qui suis plus gentleman que bûcheron, c'est vraiment intéressant de côtoyer la nature de cette façon-là. J'ai un projet de truffière, de cabane à sucre, je bûche du bois, j'ai mes enfants, je rêve d'un voyage. Sur scène, comme dans le canevas ouvert de son existence, il s'amuse à ouvrir des portes, s'emballant de ce qu'elles dissimulent. Peut-être lui faudra-t-il couper bientôt pour arrimer ses désirs au calendrier. Mais en attendant, la vie est un sacré beau spectacle. La descente aux affaires de Fred Pellerin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 1er au 5 mars et en tournée au Québec dès le 25 avril. C'était Fred Pellerin, conteur de son temps, un texte de Yannick Marcoux paru le 25 février 2023 dans Le Devoir.
Désengorger les urgences, un appel à la fois. Un texte de Alice Girard-Bossé, paru le 4 février 2023 dans La Presse. La Montérégie a réussi un véritable tour de force depuis l'été 2021. Désengorger les urgences et épargner des centaines d'heures de travail à ses services paramédicaux. Comment? En mettant au point un nouveau service qui permet à des infirmières d'orienter les patients non urgents qui joignent le 911 vers les services appropriés. La presse s'est rendue sur place. Dans les locaux d'Alerte Santé à Longueuil, l'infirmière clinicienne Maude Dagenais est installée devant son ordinateur. Devant elle défilent les appels en temps réel faits au 911 pour des motifs de santé non urgents. Son but? Orienter les patients, si possible, ailleurs qu'aux urgences ou les inviter à y aller sans ambulance. 10 heures. Une octogénaire contacte le 911 pour de la diarrhée de teinte orangée et une faiblesse à la suite d'une opération récente aux intestins. Normalement, avec les antibiotiques que vous prenez, ce n'est pas étonnant d'avoir la diarrhée, mais la couleur orangée, ce n'est pas ce à quoi on s'attend, explique Maude Dagenais à sa patiente après lui avoir posé quelques questions sur son état de santé. Pour avoir plus d'informations sur son dossier de santé, Maude Dagenais propose à la dame de joindre sa pharmacienne et de la rappeler ensuite. Au bout du fil, la pharmacienne confirme à l'infirmière que la teinte orangée n'est pas normale. « Possiblement qu'il y a du sang dans les selles », explique-t-elle. Ces possibles saignements ne sont pas à prendre à la légère, estime Maude Dagenais, qui recontacte sa patiente et lui conseille de se rendre aux urgences. Si c'est un saignement au niveau de votre intestin, on ne veut pas passer à côté de quelque chose qui pourrait devenir critique, dit-elle. Des centaines d'heures épargnées. Avant l'implantation du projet en juin 2021, un appel au 911 pour besoin médical n'avait qu'une trajectoire de service possible. L'ambulance vers les urgences, peu importe la gravité de l'état du patient. Dans la dernière année, parmi les appels évalués par ces infirmières, près de 60% ont pu être dirigés ailleurs qu'aux urgences ou transportés autrement que par ambulance. À la fin de l'appel, Maude Dagenais décide qu'elle n'enverra pas d'ambulance chez sa patiente. Elle confirme plutôt avec elle qu'un membre de sa famille est en mesure de la conduire aux urgences. Dans 24 heures, elle la rappellera pour vérifier qu'elle s'est bien rendue et qu'elle se porte bien. Les motifs de santé peu urgents occupent environ 10 à 12 % du volume d'appels de la centrale. Ce nouveau triage offre la possibilité, si la situation le permet, d'être orienté vers une clinique, le soutien à domicile ou de simplement recevoir des conseils d'auto-soins. Récemment, une femme de 90 ans a appelé le 911 pour son conjoint malade, donne en exemple Maud Dagenais. On suspectait des symptômes d'allure grippale, donc j'ai fait livrer à leur maison des tests COVID-19, se remémore-t-elle. L'infirmière les a assistés à distance pour faire le test. C'était bien un patient COVID-19 positif et il a pu rester à la maison. J'ai fait un suivi 24 heures plus tard et il allait déjà mieux. Ça nous a permis d'éviter un transport de paramédicaux, se réjouit-elle. Depuis le début du projet, on compte plus de 600 heures de transport ambulancier épargnées. On réussit souvent à trouver d'autres moyens pour les transporter aux urgences. Pour la clientèle plus âgée, on utilise un transport alternatif comme un taxi ou un transport adapté offert par le CISSS Montérégie-Ouest, indique Claude-Marie Hébert, chef de division clinique du groupe Alerte Santé. Place au travail d'équipe. Si un appel au 911 est considéré comme prioritaire, les infirmières ne le trient pas et des paramédicaux sont envoyés directement sur les lieux. Si les paramédicaux arrivent sur place et réalisent que ce n'est pas urgent, ils peuvent appeler les infirmières et effectuer une co-évaluation de la situation du patient, explique Simon Jeannot, technicien ambulancier paramédic et chef d'équipe à la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, CETAM. Le technicien ambulancier paramédical met alors son téléphone en mode main libre pour avoir une discussion avec l'infirmière et le patient afin de déterminer une solution de rechange aux urgences. Au début, certains paramédics avaient des appréhensions car ils craignaient que ça prenne plus de temps de rester sur les lieux qu'amener un patient à l'hôpital. Rapidement, on s'est rendu compte que c'est bien mieux de passer 15 minutes avec le patient que d'attendre 2 à 3 heures à l'hôpital, dit Simon Jeannot, chef d'équipe à la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. Ce service de coévaluation entre les infirmières et les paramédicaux, une première au Québec, est en place sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest. Il devrait être étendu dans les prochains mois à l'ensemble de la Montérégie. Les infirmières de l'équipe Alerte Santé sont en poste de 7h à 23h du lundi au vendredi. Les effets de leur travail se font sentir dans le réseau de la santé. La chef des urgences du Suroy à Salaberry de Valleyfield me disait qu'on le sent quand la régulation n'est pas là, car il y a des ambulances qui arrivent avec des cas peu urgents qui n'ont pas été filtrés, dit Geneviève Demers, chargée de projet à la régulation au CISSS de la Montérégie Ouest. C'était « Désengorger les urgences, un appel à la fois », un texte de Alice Girard-Bossé, paru le 4 février 2023 dans La Presse.
Dégringolade du français écrit. À qui la faute? Un texte de Pierre Calvé, professeur de linguistique retraité, paru le 28 janvier 2023 dans La Presse. La pandémie a beau avoir le dos large, elle ne peut pas tout expliquer. Déjà, le 6 mars 2008, La Presse publiait un texte du journaliste Denis Lessard intitulé « Les résultats en dictée piquent du nez », où il affirmait que si le taux de succès des élèves était basé sur la connaissance de l'orthographe, ce serait l'hécatombe dans les écoles secondaires du Québec. Et le 5 novembre 2009, Daphné Dion-Vian, journaliste au Soleil, écrivait que selon la moitié des professeurs, les élèves ne savent pas écrire. Et puis, le 6 décembre 2022, la direction de l'évaluation du ministère français de l'Éducation nationale a publié une étude révélant que dans une même dictée de 67 mots donnée par intervalle à des élèves de niveau primaire entre 1987 et 2021, le nombre de fautes était passé en moyenne de 10,7 à 19,4 fautes, soit presque le double. Dans leur rapport, les chercheurs crurent bon ajouter que l'orthographe française est l'une des plus complexes au monde et nécessite un apprentissage long et fastidieux. Va-t-on finir par comprendre qu'on aura beau jeter le blâme sur tous les intervenants et toutes les circonstances qu'on voudra, la faute réside avant tout dans la nature même de ce qu'on veut faire apprendre aux élèves, alors que les conditions longues et fastidieuses pour ce faire n'existent tout simplement plus. La maîtrise de notre orthographe, qui ne devrait pas être la composante la plus importante et problématique de l'apprentissage de l'écriture, pourrait raisonnablement s'acquérir dans les conditions actuelles, mais à condition qu'on lui fasse subir une sérieuse cure de minceur, comme l'ont fait avec succès de nombreuses autres langues, dont ces langues sœurs du français que sont l'italien, l'espagnol et le portugais. Comme le disait si bien François de Closet dans son ouvrage « Zéro faute » édition « Mille et une nuits » 2009, la grande mutation de notre langue se déroule sous nos yeux dans l'incompréhension générale. Les nouvelles technologies, qui font de l'écriture le moyen privilégié du 21e siècle, condamnent le statut traditionnel de notre orthographe dans notre culture. Ce qu'il faudrait, c'est donc une réforme en profondeur de l'orthographe et non seulement une réformette comme celle de 1990, qui n'a d'ailleurs jamais été imposée et qui a fini par mêler tout le monde. Mais la simple idée d'une telle réforme reçoit inévitablement une farouche opposition, d'où ces rectifications à la pièce. Un bel exemple de la sacralité de l'orthographe pour les francophones est le tollé qu'a soulevé la proposition d'écrire dans la nouvelle orthographe Nénuphar, N-E-N-U-F-R, au lieu de Nénuphar, N-E-N-U-P-H-R, afin de corriger une simple erreur étymologique. Or, non seulement l'italien, l'espagnol et le portugais écrivent-ils Nénuphar, N-E-N-U-F-R, ils écrivent aussi, sans se soucier de l'étymologie, orthographia, philosophia, pharmacia, où le PH est remplacé par F, ainsi que rythmo, rythme, où le YTH est remplacé par IT. Cette priorité accordée à la transparence, la correspondance entre la graphie et la prononciation des mots, dans la refonte de leur orthographe, a fait en sorte que les élèves y font beaucoup moins de fautes que les jeunes francophones, ce qui leur permet de passer à des choses plus signifiantes, plus productives, dont l'acquisition de l'écriture. Il n'est absolument pas nécessaire, pour assurer la clarté de la communication, de savoir choisir pour transcrire le seul son « o » en français parmi les graphies « o »,« os », OT, O accent circonflexe T, OP, OC, AU, AUX, EAU, EAUX, HAUT, AULT, EAULT. Et il en va de même de cette armée de suffixes grammaticaux, la plupart inexistants en langue parlée et qui servent, par exemple, à faire ou ne pas faire l'accord du participe passé dans une phrase comme les choses que j'ai crues, devoir apprendre me sont apparues, injustifiées. Et si on ne fait pas ici ces accords, la clarté s'en ressent-elle? Ceux qui s'opposent à une simplification de l'orthographe évoquent souvent l'atteinte à sa beauté et à sa richesse, le nivellement par le bas, le sacrifice d'un excellent instrument de formation intellectuelle. Or, il ne faut pas confondre l'outil et ce qu'on peut en faire. La notation musicale, cette orthographe de la musique, est un outil infiniment plus simple, plus transparent, plus convivial que l'orthographe française, et pourtant il peut servir à produire les plus grands chefs-d'œuvre. Il ne faut pas non plus confondre nivellement par le bas et démocratisation de l'éducation. Rendre tout le monde capable d'écrire le français sans cette logorée de faute qu'on trouve dans les médias sociaux serait un grand nivellement par le haut. Et pour ce qui est de la formation intellectuelle, c'est dans la conception, l'organisation et la transcription des idées en phrases bien construites au moyen d'un vocabulaire riche et précis qu'on la trouve, pas dans l'apprentissage fastidieux d'une orthographe bourrée de traquenards et de règles inutiles. Paul Valéry, ce grand poète, disait « Je ne parlerai pas de notre orthographe, malheureusement fixée en toute ignorance par les pédants du XVIIe siècle et qui n'a laissé dès lors de désespérer l'étranger et vicier la prononciation d'une quantité de mots. » C'était « Dégringolade du français écrit. À qui la faute ?» Un texte de Pierre Calvé, professeur de linguistique retraité, paru le 28 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Evelyne Séverin et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.